Le journal Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Mieux rémunérer les agriculteurs et mieux organiser leur filière, c'est l'ambition des premières mesures issues des états généraux de l'alimentation. Emmanuel Macron vient de les présenter à Rungis. Un site préservé de l'urbanisation excessive mais ouvert largement au public, ce pôle d'excellence de la biodiversité, c'est le domaine de Serte et Graveyron en Gironde que nous fera découvrir Véronique Robérotte. La réplique de Madrid à l'exécutif catalan, Mariano Rajoy estime qu'une médiation avec les séparatistes n'a pas lieu d'être et il menace de suspendre l'autonomie de la Catalogne, nous irons à Madrid. Le gouvernement irakien multiplie les mesures de rétorsion contre le Kurdistan irakien. Un tribunal a ordonné aujourd'hui l'arrestation des organisateurs du référendum d'indépendance. Explication d'Omar Waman. Emmanuel Macron est au marché de Rungis. Le chef de l'État dresse une sorte de bilan à mi-parcours des états généraux de l'alimentation et il présente les premières mesures issues des discussions. Parmi les sujets abordés au cours de ces états généraux, la question du juste prix que doivent pouvoir percevoir les agriculteurs pour vivre dignement de leur travail. Un changement de philosophie se profile. Michel-Édouard Leclerc excepté, même la grande distribution s'y est résolue. Écoutez Serge Papin, directeur des magasins Système U. Il a présidé un atelier sur les prix.
Nous nous sommes attachés, Monsieur le Président, à casser la spirale infernale de destruction de valeur que nous vivons depuis 2008 et qui fait qu'au fond, la variable d'ajustement de cette destruction de valeur, c'est le maillon le plus faible, l'agriculture. Nous avons évoqué le fait de passer d'un prix prédateur qui incarne cette destruction de valeur à un prix responsable. La mécanique contractuelle que nous proposons, qui inverse évidemment et qui donne la main à l'agriculture pour être à la base du contrat, donc on inverse le sens, peut faire l'objet aussi d'une expérimentation et après tout, on peut faire le point au bout de 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les conséquences sur l'ensemble des parties prenantes et peut-être rectifier. Il faut prendre le risque d'une autre méthode. Il y a par ailleurs des négociations qui démarrent le 1er novembre. Je pense que c'est impossible que nous démarrions les négociations le 1er novembre, comme si les ateliers n'avaient pas eu lieu.
Serge Papin de Système U. Emmanuel Macron vient d'annoncer une loi pour rééquilibrer les contrats entre agriculteurs et distributeurs. Anne-Laure Chouin, vous êtes au marché de Rungis et vous avez écouté le chef de l'État.
Le juste prix aura été l'expression de ces états généraux de l'alimentation, de leur première conclusion aujourd'hui et du discours que le président de la République est en train d'achever en ce moment. Le pouvoir d'achat des Français ne doit plus se faire au détriment du niveau de vie des agriculteurs ou de leur capacité à investir ou embaucher. Il faut donc, selon Emmanuel Macron, changer de paradigme. Et pour cela, il compte d'abord et avant tout sur la responsabilité collective. La priorité sera donc donnée à la fin de la guerre des prix et des promotions permanentes avec un nouveau modèle de contractualisation. Pour cela, la loi sera changée pour que ce soit l'agriculteur et non la distribution qui propose son prix et son contrat. L'État prendra ses responsabilités, promettent Emmanuel Macron, notamment envers les acteurs qui ne joueront pas le jeu. Et puis, regroupez-vous, c'est l'appel du président aux agriculteurs, en organisation de producteurs, en filières, en interprofessions. Pour cela, les agriculteurs seront accompagnés, notamment par l'Observatoire des prix et des marges. Regroupez-vous et transformez-vous. C'est un peu en résumé la tonalité de ce discours qui est, on le rappelle, un bilan à mi-parcours de ces états généraux dont toute la partie écologique, solidaire et durable reste encore à travailler.
Anne-Laure Chouin à Rungis avec Raymond Alboui pour les moyens techniques. 4 candidats seront en lice pour la présidence du parti Les Républicains en décembre. Ils ont déposé leur parrainage. Le favori, Laurent Wauquiez, se retrouve en compétition avec Florence Portelli, ex-porte-parole de François Fillon à la présidentielle, avec le jupéiste Maël de Calan et avec le député du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle. La justice a condamné 7 militants d'extrême gauche impliqués dans l'attaque de la voiture de police incendiée en mai 2016. Les peines vont de 12 mois de prison avec sursis à 7 ans de prison ferme. Le tribunal a relaxé 2 prévenus. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Ces peines sont perçues comme injustes par les familles, mais trop indulgentes pour les policiers qui se disent écœurés.
Effectivement, et les premières réactions sont venues du public. Voilà ce qu'on a pu entendre à l'énoncé du verdict. Flics, violeurs, assassins, une quarantaine de militants d'extrême-gauche crient leur colère. Ils sont rapidement évacués du bâtiment par les forces de l'ordre qui les empêchent de déployer leur banderole au sein du palais de justice. Ils protestent en particulier contre la condamnation d'Antonin Bernanos à 3 ans de prison ferme. L'étudiant de 23 ans est reconnu coupable d'avoir frappé un policier assis dans sa voiture avant de briser le pare-brise arrière, ce qu'il a nié depuis le début de cette affaire. Son avocat, Ariel Halimi, n'est pas surpris par cette peine.
Ce qui est arrivé, nous y attendions. Parce que dans ce type de procédure, il y a malheureusement une coloration politique. C'est une véritable guerre qui est faite aux défenseurs des libertés publiques, Antonin Bernanos et d'autres prévenus, qui, je le rappelle, étaient présents à une manifestation contre les violences policières. Si ces jeunes étaient là, c'était pour défendre les libertés publiques et l'État, aujourd'hui, ne veut plus de défenseurs des libertés publiques. Cette procédure, c'est de dire à ces jeunes citoyens qui se lèvent pour défendre les libertés publiques, pour défendre et manifester contre les violences policières, on leur dit, vous ne pouvez pas, sinon vous risquez, vous aussi, d'être pris dans un processus judiciaire.
Antonin Bernanos est malgré tout ressorti libre du tribunal, comme tous ceux qui comparaissaient libres dans cette affaire. Le juge n'a prononcé aucun mandat de dépôt. Une décision qui scandalise Alliance. On nous avait promis des mesures de fermeté et tout ça va se transformer en aménagement de peine. S'est indigné le secrétaire général du syndicat de police.
Antoine Marette, la suite du procès Mera devant la cour d'assises de Paris. Il s'agit toujours d'établir les complicités dont a pu bénéficier Mohamed Mera, qui a assassiné 7 personnes à Toulouse et Montauban en mars 2012. Aujourd'hui, la Cour est revenue sur la tragique journée du 19 mars 2012 avec la tuerie à l'école juive Ozar Hatorah. Écoutez le compte-rendu d'audience de Florence Thuram.
Brian avait 15 ans le 19 mars 2012 et à 8h du matin, il était aux côtés de la petite Myriam Monsenego, 8 ans, au portail de l'école. Et j'ai l'image de l'homme qui s'approche de la petite fille et qui lui met une balle dans la tête. Ce n'est pas lui qui raconte, mais la psychologue qui l'a rencontré. Gravement blessé à l'épaule, Brian n'a pas voulu venir à la cour d'assises. C'était au-dessus de ses forces, explique son avocat. La voix brisée, submergée par l'émotion, c'est son ami Dovan qui s'approche à la barre. Ils étaient ensemble avec la petite Myriam. J'ai entendu comme des feux d'artifice et puis j'ai vu le tueur à 4-5 mètres de moi. Brian est tombé et j'ai dit à Myriam « Vas-y, cours ». Elle a couru, mais elle s'est aperçue qu'elle avait oublié son cartable et ses chaussons de danse à l'intérieur. Elle a fait demi-tour. Il s'interrompt, prend une grande inspiration. Elle était dans une mare de sang. Je l'ai prise dans mes bras pour voir si elle était toujours là. Le jeune homme pleure, incapable de poursuivre. La petite était touchée à la tête et elle me regardait. Dans le box des accusés, Abdelkader Mera écoute sans réaction. Hier, aux questions de la partie civile, il a dit condamner les actes de son frère, éprouver honte et tristesse. Et un nouveau témoin s'avance. André Schroun emmenait ses 3 enfants à l'école. Puis il a vu Mohamed Mera sortir une deuxième arme, tirer sur les corps à terre. Lui a fait monter d'autres enfants dans sa voiture pour les protéger et il poursuit. Monsieur Sandler a levé les bras pour protéger son fils et il l'a abattu. Mais je pense que son intention, c'était d'abord d'atteindre les enfants. La partie civile insiste avec douceur. Vous dites que Jonathan Sandler n'était pas précisément visé. Le témoin soupire à nouveau. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il cherchait à viser les enfants.
Florence Thuram au palais de justice de Paris. 10 jours après l'attaque de Marseille qui a coûté la mort à 2 jeunes filles, Christophe Castaner annonce l'envoi d'une circulaire au préfet pour les appeler à faire preuve d'une vigilance maximum. Le rapport de l'inspection générale de l'administration a mis en lumière une série de dysfonctionnements internes, explique le porte-parole du gouvernement. Ils ont conduit à la libération de l'auteur de l'attentat alors qu'il avait été interpellé à Lyon en situation irrégulière. Ce matin, le préfet du Rhône a été remplacé par le préfet de la région PACA. Comment protéger un site de l'urbanisation galopante sans pour autant le mettre sous cloche? Un défi auquel s'est attelé le département de Gironde. Il inaugure officiellement cette semaine le domaine de Certes et Graveyron près du bassin d'Arcachon. Bonsoir Véronique Reberotte.
Bonsoir.
Cet espace naturel de 530 hectares, façonné par l'homme depuis des siècles et paradis des oiseaux migrateurs, vient de renaître. Il a bénéficié d'importants travaux de valorisation, Véronique.
Mais sur son patrimoine architectural notamment remarquable, lui aussi, le domaine de Certes et Graveyron, donc c'est donc 530 hectares, situé à l'est du bassin d'Arcachon, d'abord marais salant au XVIIIe siècle, puis modifié en bassin piscicole. C'est le marais endigué le plus vaste d'Europe. Le site a été classé espace naturel sensible il y a plus de 30 ans, acheté par le Conservatoire du Littoral. De sa biodiversité exceptionnelle, eh bien, le public peut désormais en profiter toute l'année. Des visites conçues, c'est ce qu'explique Joachim Dufour, il est guide naturaliste, conçues comme un circuit court de la connaissance entre public et scientifique.
On va travailler avec les botanistes pour expliquer un peu au public comment le conservatoire travaille à la sauvegarde des espèces rares et protégées en Aquitaine, ou avec la Ligue pour la protection des oiseaux, on va travailler avec eux sur la connaissance du public sur ce qu'est un hôpital pour animaux sauvages, le centre de soins. C'est faire sortir les soigneurs du centre de soins, les faire rencontrer le public, lâcher des oiseaux ensemble et maîtriser un petit peu la chaîne depuis le public qui amène les oiseaux jusqu'aux scientifiques qui le relâchent dans un endroit particulier. Donc ça peut être ça. Un circuit court, ça veut dire faire se rencontrer le public avec les scientifiques et non pas uniquement servir de média. On va pas remplacer le scientifique, mais on va aider les deux à se mettre en contact, par exemple. Donc juste devant, vous avez la grande aigrette avec son bec jaune, qui est un tout petit peu plus grand que le héron cendré, beaucoup plus rare surtout. Et dans la prairie, les hérons cendrés en gris, les aigrettes garzettes, et je me demande s'il n'y a pas... Il y a les spatules blanches au milieu de la prairie, voilà. Juste avant que vous n'arriviez sur le parking, il y avait 8 cigognes en vol, on va peut-être les voir après. Et là aussi, on a une responsabilité particulière sur le bassin et sur la façade atlantique parce qu'on est une des dernières haltes avec les Landes avant les Pyrénées, donc avant l'Espagne. Donc en fait, c'est une des dernières stations-service pour pouvoir faire le plein de sommeil, d'énergie, de nourriture avant de passer les Pyrénées qui leur prend une énergie considérable. Il y a certains oiseaux qui vont faire 10 000 km en passant par chez nous et si ils n'ont pas d'espace suffisant sur le bassin d'Arcachon pour se reposer quelques jours, quelques heures, voire quelques semaines et de se nourrir, ils risquent de ne pas réussir leur migration et de s'arrêter, de ne pas passer l'hiver, pour être clair. Donc c'est pour ça que pour certaines espèces, le site est très très important.
Alors l'autre défi, c'était de préserver un site historique d'une urbanisation galopante. On est tout près du bassin d'Arcachon. Odile Courbat est la responsable du domaine de Certes et Graveyron.
C'est un endroit qui a suscité au cours des siècles des utopies un petit peu. Il y a eu des personnages comme Ernest Valton de Boissière par exemple, qui lui avait aménagé le site pour la pisciculture. Il y a eu aussi une ferme modèle au début du XXe siècle ici, une ferme qui était extrêmement moderne pour l'époque puisque même les porcs devaient passer dans un pédiluve, il y avait des conditions sanitaires extrêmement développées et c'était assez précurseur pour l'époque. Le choix du Conservatoire du Littoral, ça a été de le préserver, mais tout en le laissant ouvert aux usages et aux professionnels. Et puis, c'est largement ouvert au public pour que le public puisse en profiter. La Gironde a un afflux de population très important, 20 000 habitants par an. Et je sais que quand le Conservatoire du Littoral s'est intéressé à ce site pour le préserver de toute urbanisation, il y avait des projets un peu faramineux pour ce site. Un zoo avec des hippopotames, des alligators, en fait il y avait des projets différents évidemment de celui qui est là aujourd'hui.
15 millions d'euros d'investissement donc pour valoriser ce site, financé en partie par la taxe d'aménagement, une taxe perçue sur les permis de construire. C'est pour compenser les effets de l'urbanisation. Rarement argent aura été si bien utilisé.
Merci Véronique Reberotte. Après cette bouffée d'oxygène, on replonge dans la pollution. Chaque année, la pollution de l'air entraîne la mort prématurée de 500 000 personnes en Europe. Même si la tendance est à une légère amélioration, ces chiffres de l'Agence européenne de l'environnement sont impressionnants. Bonsoir François-Pierre Noël.
Bonsoir.
L'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni sont les plus touchés par le nombre de décès liés à la pollution en Europe. La France est cinquième derrière la Pologne. 48 000 Français meurent à cause de la pollution de l'air, un chiffre qui augmente chaque année.
Oui, la France ne respecte pas les normes européennes en matière de particules fines, ces toutes petites poussières de quelques micromètres qui se glissent dans nos poumons, et aussi de gaz comme le dioxyde d'azote. Le docteur Jean-Philippe Santoni, pneumologue, le constate au quotidien.
On voit certainement plus d'hospitalisations pour crise d'asthme au moment des pics de pollution. On voit aussi aujourd'hui l'apparition d'asthme et d'allergies à l'âge adulte qui sont plus fréquents, qui sont voire plus sévères, et qui sont probablement en rapport avec la pollution. Pollution n'est pas forcément le facteur causal, mais c'est un facteur de risque et un facteur d'aggravation.
Alors ces particules fines ne viennent pas uniquement des voitures, mais aussi des industries et des produits utilisés dans l'agriculture. Les villes comme Paris, Marseille ou encore Lyon sont les secteurs les plus pollués.
C'est vrai que dans les grandes villes, et on le voit bien dans le rapport de l'Agence européenne, dans les grandes villes, il y a des concentrations de pollution plus importantes, mais malheureusement, les campagnes ne sont pas exemptes de pollution, et en particulier d'origine agricole ou liées à des déplacements atmosphériques de pollution produite ailleurs.
Si l'on rapporte à 100 000 habitants, la France n'est pas l'un des pires pollueurs de particules fines. Il est dépassé par des pays comme la Bulgarie ou le Kosovo, mais vu la taille du pays, de son activité et du nombre d'habitants, nous sommes l'un des 5 pires pollueurs de l'Union européenne. Sébastien Vray, porte-parole de l'association Respire.
On a du mal avec le changement, on va attendre qu'il y ait des problèmes de santé, des actions juridiques médiatiquement, des rapports comme ceux européens, et on attend toujours, comme l'amiante, on va attendre qu'il y ait encore des milliers de victimes pour pouvoir agir.
Et selon le rapport de Santé publique France, datant de l'an dernier, la pollution de l'air est la troisième cause de mortalité en France, derrière le tabac et l'alcool.
Carles Puigdemont a-t-il vraiment déclaré l'indépendance de la Catalogne hier soir? Le Premier ministre espagnol fait mine de ne pas avoir compris le discours du président de l'exécutif catalan. Il l'appelle à préciser sa position et à revenir à la légalité, faute de quoi le gouvernement s'appuierait sur l'article 155 de la Constitution pour suspendre, entièrement ou partiellement, l'autonomie de la région. Marie-Hélène Ballestero, vous êtes en direct de Madrid. Mariano Rajoy s'est exprimé cet après-midi devant les députés espagnols.
Oui, tout à fait. La séance plénière a démarré à 16h au Congrès des députés. Elle continue. Ici à Madrid, Rajoy a pris la parole en premier. Il est revenu longuement et bien sûr la grave situation politique que connaît actuellement la Catalogne et sur l'impossibilité pour lui de dialoguer avec ceux qui ne respectent pas la loi. Le dialogue, oui, mais pas dans ces conditions. D'après lui, une médiation n'est pas envisageable non plus, car d'un côté, il y a ceux qui respectent la loi démocratique et de l'autre, ceux qui vivent dans la désobéissance et l'illégalité. Rajoy a fait référence également au discours qui avait été prononcé le 3 octobre dernier par le roi d'Espagne, Felipe VI. « Nous réussirons à aller de l'avant et à sortir de cette impasse », a-t-il affirmé, « car nous croyons en notre pays et nous sommes fiers de ce que nous sommes ». Le gouvernement espagnol continuera à faire respecter la loi en cherchant toujours à favoriser l'entente et la paix sociale, a-t-il poursuivi, avant de conclure qu'il est grand temps de mettre fin à cette situation de déchirement et il entend le faire avec beaucoup de sérénité, de prudence, avec un objectif final, récupérer un climat de coexistence. Alors Rajoy compte bien passer à l'acte, mais avec prudence. Il a reçu jusqu'à présent l'appui de deux formations clés sur l'échiquier politique espagnol, Ciudadanos et le Parti Socialiste. Leur leader, Pedro Sánchez, est parvenu ces dernières heures à un accord avec Rajoy. Le PSOE soutiendra le gouvernement central dans l'application de cet article 155, mais en contrepartie, Rajoy s'est engagé à réformer la Constitution espagnole, une condition indispensable d'après les socialistes pour régler la question catalane.
Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid. Les velléités d'indépendance du Kurdistan irakien passent elles aussi très mal. Aujourd'hui, un tribunal de Bagdad a ordonné l'arrestation des organisateurs du scrutin à la demande du gouvernement irakien. Mais cette mesure de rétorsion est avant tout symbolique, Omar Ouaman.
Déterminé à faire plier les autorités kurdes, Bagdad poursuit ses mesures de rétorsion. Après avoir fermé l'espace aérien du Kurdistan aux vols internationaux, le pouvoir central cible désormais les organisateurs du référendum du 25 septembre. Mais en ordonnant l'arrestation du président de la commission électorale ainsi que deux de ses membres, Bagdad prend là une mesure symbolique, car il n'a en réalité aucun moyen de mettre à exécution cette décision de justice. La région autonome du Kurdistan jouit depuis la chute du régime de Saddam Hussein d'une totale autonomie et dispose de sa propre police et forces de sécurité sur qui le pouvoir irakien n'a aucune autorité. Mais si cette décision interdit désormais à ces trois responsables kurdes de circuler dans les provinces irakiennes sous peine de se faire arrêter, elle montre surtout l'intransigeance du pouvoir central et son refus de négocier tant que les autorités kurdes n'auront pas déclaré caduques les résultats du référendum. Bagdad est prêt à tout pour parvenir à ses fins, quitte à user de la force en dernier recours. En attendant, il s'emploie à asphyxier économiquement le Kurdistan avec l'aide de ses alliés dans la région, l'Iran, qui a déjà gelé ses échanges pétroliers avec la région autonome, et la Turquie, qui envisage également de le faire. Dans ce cas, les conséquences pour le Kurdistan seraient catastrophiques, car les revenus pétroliers constituent l'essentiel de ses ressources.
Le Kenya en pleine incertitude, au lendemain du retrait de l'opposant Raila Odinga de l'élection présidentielle du 26 octobre, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté dans le pays. Raila Odinga estime que son retrait implique l'annulation du scrutin et l'organisation d'un nouveau processus électoral. Le chef de l'État soutient, lui, que l'élection doit avoir lieu avec ou sans rival. Marie-Emmanuelle Pomerol, chercheuse en sciences politiques à l'Institut français de recherche en Afrique, basée à Nairobi, nous confirme la complexité de la situation.
Tout le monde se pose beaucoup de questions, d'abord sur la tenue du prochain scrutin, le 26 octobre. On attend la décision de la commission électorale sur la tenue ou non de ce scrutin. L'opposition, Raila Odinga, donc, qui s'est retirée de la course, estime qu'il faut un nouveau scrutin, qu'on reparte à partir des primaires et que tout le processus électoral ait lieu à nouveau, alors que le candidat Kenyatta, président actuel, insiste pour que le scrutin ait bien lieu le 26 octobre. Donc tout ça n'est pas clair. Donc aujourd'hui, l'opposition avait appelé à manifester pour demander des réformes notamment au sein de la commission électorale. Donc ils étaient à Nairobi, à Uhuru Park et puis dans les rues du centre-ville où se trouve la commission électorale. Il y a eu aussi des manifestations plus importantes à Kisumu, qui est le bastion de Raila Odinga. Et ce sont des manifestations qui rencontrent toujours la police avec des gaz lacrymogènes notamment. Pour l'instant, la violence, on va dire, reste relativement contenue.
La chercheuse Marie-Emmanuelle Pomerol répondait à Nabila Hamel. La météo, des nuages et de faibles pluies demain sur la moitié nord. Dans le sud-ouest, nuages le matin, soleil l'après-midi et soleil voilé sur le sud-est. Les températures maximales iront de 16 à 28 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.